Le sens des mots. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve David Gaillardon.
Entente cordiale, bonjour. Le mois de septembre est traditionnellement très actif pour les maisons de couture. C'est celui des défilés où les créateurs présentent leurs collections d'automne et d'hiver. Mais derrière le rêve et la magie propre à l'univers du vêtement de luxe, il y a une réalité économique qui, depuis de nombreuses années déjà, est confrontée à plusieurs difficultés. D'une part, la clientèle des grandes maisons se réduit comme peau de chagrin. On estime aujourd'hui à 200 le nombre de clientes susceptibles de s'offrir une robe entièrement bâtie, ajustée puis cousue par les petites mains d'après un patron unique. D'autre part, si Paris est toujours la capitale de la mode, cette position lui est chèrement disputée par d'autres capitales, Milan et New York notamment. Signe des temps, à Paris comme ailleurs, on parle désormais de Fashion Week plutôt que de Semaine de la mode, comme c'était le cas pourtant jusque dans les années 1960. La fermeture de la maison Yves Saint-Laurent, le naufrage économique de la maison Lacroix sont autant de raisons d'être pessimiste quant à l'avenir de la haute couture, malgré l'émergence de nouvelles fortunes dans les pays émergents. Une très bonne nouvelle cependant, même si l'univers qu'il sert à décrire se trouve menacé, le vocabulaire français demeure très présent et l'image chic qui lui est attribuée contribue à conduire les rédactrices de mode et les écotiers du monde entier à en faire un usage immodéré. Aussi, les magazines de mode, souvent propriétés de groupes de presse américains, c'est le cas de Vogue avec Condé Nast par exemple, se font-ils un devoir d'user, voire d'abuser de la langue française ? La parution du numéro de septembre du magazine américain Vanity Fair suffit à s'en convaincre, comme on va le voir. Couture toujours, proclamait le titre d'un reportage paru dans ce numéro de Vanity Fair en septembre dernier, hommage à la haute couture française, appréciée comme un phénix renaissant sans cesse de ses cendres. Is haute couture for grannies, s'interrogeait ensuite la journaliste, posant là une question déjà ancienne et qui avait le don de faire bouillir Coco Chanel. Et de regretter comme suit les mésaventures financières rencontrées par Christian Lacroix il y a quelques mois seulement. Now, the revered maison of Lacroix, having filed with bankruptcy protection, the D-Snell is being sanded once again. Partant ensuite sur les obligations faites aux maisons membres de la très fermée chambre syndicale de la haute couture, la journaliste explique ce que doit être un couturier et ce que l'on appelle en France une appellation contrôlée. If someone is simply a couturier, all that means is that you are sewing, but if a dressmaker uses the term haute couturier without the chambre syndicale of haute couture sanction, he can be arrested. The origins of haute couture, an appellation contrôlée, or trademark name like champagne, date back from Louis XIV. Nous poursuivons la lecture de l'article du numéro de septembre dernier du magazine américain Vanity Fair dédié à la haute couture française à l'occasion de la Semaine de la mode qui s'est tenue en septembre. On trouve dans cet article utilisé les mots « carton » et « créateur ». Le premier, allusion au dessin des boîtes renfermant les robes des riches clientes de maisons de couture françaises d'avant-guerre, est évoqué sous forme de boutade. So exquisite were the delivery cartons themselves that clothes horse Nan Kempner said she hoped to be buried in one. Le second, le terme créateur, est un terme tellement à la mode aujourd'hui pour désigner les artistes et les autres performeurs contemporains, est évoqué dans cet article comme suit. The reign of Jean Poiret did not outlast the jazz age. By the late 20s, such forward-looking clients as Josephine Baker, Elena Rubinstein, Colette and Peggy Guggenheim had already migrated to newer creators, among them Chanel. Un peu plus technique, on trouve ensuite les termes patron-papier et première vision. Synonyme du mot anglais patronage, le patron papier est né dans les années 1970. Il était alors destiné à contrôler, à défaut de l'empêcher, le piratage des modèles de haute couture que de petits malins reproduisaient en atelier après les avoir aperçus dans les magazines de mode. Ces patrons étaient cédés à haut prix aux ateliers de maisons de confection et de prêt-à-porter, accompagnés d'un droit d'assister aux défilés de mode organisés par les maisons de couture concernées. À la même époque, les maisons de couture françaises mettent au point, toujours dans le souci d'éviter ce piratage, le système dit de première vision. Elles proposent là un dessin du modèle original de la saison précédente, vendu à des couturières qui peuvent le reproduire à la commande pour des clientes de province, chacun sachant parfaitement que le modèle reproduit n'aura jamais la finition du modèle original. La langue anglaise dispose d'ailleurs d'un équivalent pour ce droit de première vision avec l'expression « sneak peek ». Dans une précédente émission consacrée à la mode, nous avions évoqué certains termes propres à cet univers et très prisés outre-Atlantique. Le magazine Vanity Fair de septembre dernier revient sur certains d'entre eux en des termes qui valent d'être cités à nouveau. C'est d'abord la hiérarchie propre aux maisons de couture parisiennes avec les termes première et seconde d'atelier. A première and a second presided over each workroom's petite main or little hand-sewer's machine stitching restricted. C'est ensuite l'évocation des vendeuses. The saleswomen or vendeuses were confident and minor celebrities in their own right. Mine de rien, tout un univers avec ses codes sociaux se trouve contenu dans ce vocabulaire, témoin encore les expressions de vendeuse mondaine, de cabine ou bien encore de passage devant la cliente. Sometimes, they were vendeuses mondaines, titled ladies, often white Russian émigrés, with important social connections, who worked for wardrobe and expenses, plus commission. Finally, there were the cabin, the in-house table of models, numbering six or more and distinctly different at each house. And with up to 150 passages, or looks, the parade of fashion could last for nearly 2 hours. Dernière occurrence, à traduire le souci des grands couturiers à recruter leurs mannequins dans la haute société, en leur prêtant des robes qu'elles mettaient en valeur en les portant dans de grandes occasions, l'expression de mannequin mondaine qu'on trouve écrit souvent dans les magazines américains sous la forme de mondaine mannequin. L'expression est illustrée comme suit dans l'article en question, toujours extrait de cet article de Vanity Fair. « As soon as I married, Jean de Cesse asked me to become his mondaine mannequin. » But I refused, I wanted to be free to buy whatever I wanted. Bref, comme le conclut l'article cité, even today, haute couture is still the best way to dress le beau monde.